voudrais vous raconter l'histoire de la décision, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui est sur des rails, bonne élève, bonne à l'école, bonne grande école, bonne carrière. Une femme qui ne fait pas de vagues, qui fait tout comme il faut. Elle pourrait continuer, inscrire ses pas dans les pas de ceux qui l'ont précédée. Elle pourrait réussir comme tout le monde, mais un jour, elle rencontre son désir. Et ce jour-là, elle se dit qu'elle préfère aller vers son risque, quitte à se planter. Elle préfère rater d'une manière qui lui ressemble, plutôt que réussir comme tout le monde. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle va réussir d'une manière qui lui ressemble. Mais n'allons pas trop vite, nous n'en sommes pas là. Elle vient juste de prendre sa décision. Quitter sa banque à la Défense pour se lancer dans la musique. Elle a en tête l'exemple de Ben Mazué, le médecin devenu chanteur. Il l'a fait lui, alors pourquoi pas elle? Pour réussir à prendre cette décision, elle fait le contraire de ce qu'on lui a appris dans sa grande école. On lui a appris à choisir. Mais décider, c'est bien plus que choisir. Choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est agir avant de savoir. Choisir, c'est écouter les critères. Décider, c'est savoir s'écouter. Choisir, c'est faire confiance à sa raison. Décider, c'est se faire confiance en entier, à sa raison, mais aussi à son imagination, à son corps, à son intuition. Choisir, c'est se soumettre à l'argument. Décider, c'est affirmer sa liberté. On choisit parce qu'on sait, on décide parce qu'on ne sait pas. Ou alors on sait, mais autrement, et on sait même que c'est risqué. Décider implique un consentement profond à la possibilité de l'échec. Kierkegaard, parlant de la décision de la foi, la définit comme un saut méta-rationnel. Méta en grec, ça veut dire au-delà. Un saut au-delà de la raison. Voilà une sublime définition de la décision. Mais elle, elle ne décide pas de croire en Dieu. Elle décide de croire en elle, en sa musique. Elle décide de croire en son désir. Mais comment trouver ce courage quand on a appris toute sa vie à suivre les consignes, les normes, les process? Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir la femme la plus rapide du monde, en tout cas sur l'eau, la navigatrice Clarisse Kremer, à peine 32 ans, récemment 12e au Vendée Globe, nouvelle détentrice du record féminin du tour du monde en solitaire sur monocoque, qui nous a rejoint sur la terre ferme, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à méditer cette belle question. Une vie sans risque est-elle encore une vie?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Clarisse Kremer, bonjour.
Bonjour Charles Pépin.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à parler un peu de philosophie à partir de votre expérience si singulière. Donc voilà, vous avez 32 ans, vous avez fait plusieurs performances extraordinaires en tant que navigatrice, et puis récemment, donc voilà, c'est ce record du monde, en fait, du tour du monde en solitaire. Hein.
Sur un monocoque.
Sur un monocoque, bien sûr, on va bien sûr en parler. Vous avez eu un parcours qui ressemble un peu, peut-être, à celui de la fille de ce portrait, là, que vous avez fait HEC, vous avez monté une boîte, je crois, avec votre frère. Et puis, on va commencer par ça. Un jour, vous avez changé de voie et vous avez découvert non seulement la voie, le bateau, mais surtout la compétition et au plus haut niveau. Comment vous avez décidé de changer de vie?
Ça n'a pas été un processus facile parce qu'effectivement, j'étais un peu bloquée dans ma tête sur des espèces d'a priori sur la façon de mener sa vie. Et ce qui m'a fait me mettre vraiment à mon premier projet de course au large, ça a été le fait de m'installer en Bretagne. Moi, ouais. J'étais bloquée dans une vie un peu francilienne, dans l'idée que les grandes carrières se menaient à Paris.
Et c'est intéressant, ça commence par la géographie, quoi.
Exactement, de rejoindre celui qui aujourd'hui est mon mari,
dans le Morbihan. Tanguy le Turquier.
Tout à fait.
Navigateur, lui aussi, et puis avant vous, en fait.
Oui, c'est lui qui m'a donné cette passion pour le meilleur et pour le pire.
Alors racontez-nous un peu quand même le moment de vous installer en Bretagne et puis surtout le moment de décider d'en faire votre métier. Il y a bien un moment de basculement quand même.
Oui, tout à fait. Bah, ça n'a pas été un moment facile. Ça a été peut-être le moment le plus critique, on va dire, dans le fait de choisir cette nouvelle vie, parce que j'ai dû un peu abandonner mon frère avec qui j'ai créé notre start-up Casalen. Et j'étais pas du tout fière de moi. Et donc j'ai fait un peu un blocage. J'ai eu une période de 2-3 mois où on me reconnaissait pas trop. J'étais un peu toute grise.
Cette vie d'avant vous plaisait aussi?
Ouais, elle me plaisait, mais il y avait quelque chose qui clochait. Et jusqu'au jour où il a fallu que j'aille un peu, on va dire, à la rupture, au moment où vraiment je me reconnaissais plus dans mon quotidien, pour vraiment décider d'aller en Bretagne et de me lancer dans ces projets bateaux qui me faisaient
rêver. Mais vous faisiez déjà beaucoup de voiles.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui.
Parce que quand même, il y a un rythme assez étonnant. En 4-5 ans, vous arrivez au meilleur... Enfin, au plan mondial, parmi les meilleurs, comment c'est possible d'aller si vite ?
Moi, j'ai eu quand même un petit peu de chance dans mon parcours. J'ai eu des opportunités que j'ai pu saisir au fur et à mesure. Et puis, c'est difficile à expliquer. C'est vrai que j'aime bien faire les choses à fond et j'ai appris assez vite. Mais il faut pas quand même oublier la part un peu de réussite, comme on dit.
Et
dans
par
notre...
exemple, cette chance.
C'est tout simplement la voile. Donc la course au large, c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Donc on a besoin de sponsors pour pouvoir avoir nos bateaux et mener à bien nos grandes courses et j'ai été repérée, on va dire, assez rapidement par mon sponsor, le Team Banque Populaire, et le fait qu'il m'ait repérée et qu'il m'ait apporté ses financements pour faire le Vendée Globe a été un énorme accélérateur.
Mais est-ce qu'il vous a repéré aussi parce que vous étiez diplômée d'HEC en plus d'avoir ce talent de voile ?
Ça a été un tout, il serait mieux à même d'en parler que moi, mais ça a été ma première transatlantique en solitaire où je suis arrivée deuxième qui m'a fait repérer, on va dire, de façon sportive, et on va dire que ça a été englobé par mon côté entrepreneur, ma formation qui allait bien dans
votre côté
Instagrammeuse qu'il voulait raconter.
Vous aviez ce sens de la narration sur les réseaux sociaux.
Oui, le partage sur les réseaux sociaux faisait partie du tout qui leur convenait bien.
Alors racontez-nous un petit peu le rapport entre la préparation et ce qui se passe en pleine mer, en pleine course. Est-ce que, grosso modo, vous êtes tellement préparé que finalement, il n'y a pas beaucoup d'imprévus ? Ou est-ce que, pour l'essentiel, malgré la préparation, il y a surtout de l'imprévu ?
Je dirais que c'est plutôt la deuxième option.
Ça me rassure, quelque part.
C'est ça qui est génial, c'est qu'on fait des plans, des grands plans stratégiques, on se prépare le plus possible, on passe en revue beaucoup de détails, et puis à la fin... C'est le bateau qui décide, la mécanique, c'est la météo qui décide, et la vie d'un coureur au large, c'est de gérer les imprévus en permanence.
C'est ça, j'ai vu cette scène incroyable où vous réparez votre mât en devant monter en haut, alors que vous avez le vertige, et que donc évidemment, je le rappelle pour les auditeurs, vous êtes donc toute seule au milieu de l'océan. Quelles ressources on trouve dans ces moments-là pour réussir à vaincre sa peur ?
Oui, en fait, je devais réparer une voile en haut de mon mât. La ressource, c'est simplement l'objectif qu'on a chevillé au corps. Je voulais terminer ce Vendée Globe et le terminer en faisant des belles trajectoires, en naviguant bien. Et cette voile, j'en avais besoin pour faire ça. Et c'est quelque chose que moi j'adore dans la voile et dans le fait de se retrouver seul en mer, c'est que on repousse ses limites ou en tout cas on découvre qu'on est plus fort que l'idée qu'on se fait de soi-même et le vertige que j'ai véritablement, hein, vous me surprendrez jamais à faire de l'escalade pour le plaisir, là j'ai réussi à le surpasser pour aller réparer ma voile.
Alors justement, on va écouter quelque chose.
Je sais pas ce que je fais de mal, j'en ai ras le bol. J'avance pas quoi, j'avance putain de pas, je sais pas où ils sont les autres, mais moi je suis nulle quoi, je suis vraiment trop une bouse et là je viens de me prendre un grain et j'ai pas eu le vent et j'ai juste eu la pétole et je sais pas comment faire pour éviter cette putain de pétole. De toute façon, plus je me donne à fond, plus je suis nulle, alors franchement ça sert à rien quoi. Franchement je me sens super seule. C'est marrant, hein? J'aimerais bien parler à quelqu'un, n'importe qui, en fait, ça pourrait être le pire con du monde, je serais trop heureuse de lui parler.
Alors cette solitude, elle doit être vraiment dure parfois quand même.
Ouais, là c'est des extraits de ma première transatlantique en solitaire. C'est un petit film que j'ai pu monter à la fin de mon aventure et c'est peut-être les extraits où je suis le plus au fond du trou que vous avez choisi.
Et encore
c'est
ça
sympa.
Va. Et encore ça va. Oui, mais cela dit, ce qui est marrant, c'est que en fait vous vous trompez sur votre situation parmi les autres,
ouais,
je crois. Finalement, vous allez arriver deuxième.
En fait, c'est une course très particulière parce qu'il n'y a pas de moyen de communication. Donc là, c'est encore très différent du Vendée Globe. C'est aussi pour ça que je dis que j'aimerais parler à n'importe qui, même le pire con du monde.
C'est vraiment on est en solitaire.
Il n'y a pas de moyen de communication. Et on parle à personne. Ce qui est assez unique dans notre vie actuelle, en fait, de ne parler à personne pendant... Donc c'est en deux étapes, mais là, cette étape-là, c'est 15 jours. Et à part un concurrent que j'ai croisé à la VHF à la fin, donc sur une radio qu'on a à bord, j'ai parlé à personne. Ce qui est génial avec la course à l'âge, c'est qu'on identifie très bien ses forces et ses faiblesses. Et une de mes faiblesses, un de mes défauts, mais que je travaille à chaque jour passé sur l'eau, c'est le manque de confiance en moi. Et j'ai tendance un peu le syndrome, vous savez, des bons élèves qui sortent du contrôle de maths et qui disent qu'ils ont raté alors qu'en fait ils ont réussi. Ça énerve beaucoup les autres, je le sais, mais c'est un peu ce que j'ai fait sur cette course-là en particulier.
Mais finalement, quand la confiance vient, puisqu'elle est donc venue jusqu'aux incroyables performances que vous avez réalisées, elle vient davantage de votre compétence, elle vient davantage du bateau, elle vient davantage de la contemplation de la mer, esthétique, elle vient davantage des autres. Vous direz que qu'est-ce qui lui permet de se déployer cette confiance qui peut-être au début manque un peu ?
La première chose, c'est l'expérience, de se confronter à la réalité et de se rendre compte qu'on est capable. Moi, c'est ça qui fait grandir ma confiance. Et après, c'est ce qui me rassure et ce qui va, on va dire, stabiliser ma confiance en moi. C'est en mer, c'est la contemplation, c'est les moments de joie. C'est ça qui va me rattacher à ce que j'aime véritablement sur l'eau. Et donc, dans les moments de doute et de faiblesse, quand je me rattache à ce que j'aime véritablement sur le fait d'être en mer toute seule, ça me rassure, et donc c'est une forme de confiance en soi, et c'est ce qui me permet de tenir sur la durée.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que d'un côté, vous parlez d'expérience, de préparation, le côté battant, et en même temps, on a l'impression que presque ce que vous allez le plus rechercher, c'est la solitude et la contemplation.
Complètement. C'est tous les petits moments de joie qu'on a en contemplant un nuage avec une jolie lumière. C'est des micro-instants de grâce qui durent parfois quelques secondes, parfois plusieurs heures. C'est le fait de se sentir bien là où on est, à l'instant où on est. Enfin, c'est vraiment la recherche de l'instant présent. Moi, c'est ça qui me fait tenir et qui fait que je retourne en mer, parce que je vis des moments que j'ai un peu plus de mal à vivre à terre, en fait.
Et parfois, vous voudriez les partager avec quelqu'un qui n'est pas là ?
Qui n'est pas là, c'est-à-dire pas avec moi sur,
oui.
Sur le bateau ou
Non, je veux dire, je précise un peu ma question. Quand on contemple quelque chose de beau, on a souvent envie de le partager. Et même si on apprécie la solitude, au cœur de cette solitude, il y a un désir de communion. C'est pour ça, c'est ce que le philosophe Kant explique quand il dit qu'on dit que c'est beau. Et pas moi, je trouve ça beau, mais c'est beau. Ça veut dire qu'il y a une invitation à la communion. Et c'est pas du tout incompatible avec la jouissance de la solitude. Mais est-ce que parfois, en mer, vous n'avez pas quand même ce sentiment que finalement c'est dommage d'être seul aussi ?
Si, il y a un petit peu de ça. C'est une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai pas mal de facilité à prendre ma caméra et à filmer, et à essayer de partager, à essayer de mettre des mots sur ce que je ressens. Parce qu'il y a un côté un peu dommage, en fait, effectivement, presque du gâchis de vivre des moments comme ça et de pas réussir à les partager. Et en même temps, parfois, très égoïstement, on prend juste le moment pour ce qu'il est et on en profite seul et on sait que ça nous... Voilà, il est pour nous et voilà. Peut-être égoïstement, on s'arrête là et c'est bien déjà.
Alors, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous avez fait une course avec votre mari, donc Tanguy Le Turquet, et vous avez raconté après cette course que cette fois-là, parce que vous étiez avec lui, vous aviez envie de prendre soin de lui, et puis peut-être aussi lui de vous, et que finalement, vous aviez perdu quelque chose de votre niaque, de cet esprit de compétition. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ?
Ouais, la course au large, c'est un sport qui est quand même assez difficile mentalement. On se met dans des conditions, on va dire, d'hygiène, de sommeil, de confort qui sont assez précaires. Mais on a choisi tout ça, donc on le vit assez bien. Et donc, ça demande quand même un état d'esprit un peu dur au mal. Il faut ouais. Oublier son envie de douche chaude, de bien dormir, de pas avoir les fesses qui grattent parce qu'on est trempé. Voilà, tout ça, il faut un peu le mettre de côté. Et quand on est en couple, voilà, on est amoureux sur un bateau, on a beau avoir un grand esprit de compétition et l'envie de faire avancer son bateau le plus vite possible, on va avoir tendance à peut-être trop prendre soin de l'autre ou à trop s'écouter, à être dans une posture de couple qui n'est pas forcément une posture de combat, on va dire. Et ça, moi, j'ai trouvé que ça dénaturait un peu ce qui faisait ma force en mer en termes de compétition, en tout cas. Ça ne m'empêchait pas de profiter, mais...
Oui, d'ailleurs, dans cette transat-là, vous n'avez été que 14e, tous les deux.
Oui. Je crois qu'on n'était que 17 bateaux au départ. Donc
Finalement, vous avez oublié la compétition, vous avez profité, quoi.
Oui, alors on a eu aussi, on a eu des soucis techniques, mais bon, c'est toujours bien de se cacher derrière les soucis techniques. Mais oui, on l'a dit, hein, on ne regrettait absolument pas d'avoir vécu cette expérience-là, mais ce n'était pas le choix de la performance.
Et alors, si on parle de dépassement de soi, et qu'on vous imagine, pour le coup, seul en mer, qu'est-ce qu'on dépasse, en fait, dans ce dépassement de soi ?
C'est une bonne question. On dépasse, moi, la première chose que je dépasse, c'est les idées préconçues que j'ai sur moi. On se fait toujours une idée de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on n'est pas capable de faire. Et quand je me lance à l'assaut d'un Vendée Globe, j'ai aucune idée de comment je vais gérer ça. Et on prend chaque étape les unes après les autres, chaque journée les unes après les autres. On se concentre sur ce qu'on a à faire pour faire avancer son bateau, même si on a toujours une idée de la stratégie, de la météo. Et... Et chaque jour, on dépasse un peu plus l'idée qu'on avait au départ de ce qu'on était capable de faire. Parce que quand on passe la ligne de départ, on se dit pas « je vais réussir à finir le Vendée Globe », on se dit « je vais tenter ma chance ». Et donc, chaque jour, c'est une évolution, une progression. Et ça, pour moi, c'est un dépassement de soi.
Presque une découverte de soi.
Ouais, c'est une découverte et c'est ça qui me plaît.
Je vous propose, pour fêter ça, et on imagine un peu à quel point c'est agréable de se surprendre soi-même, une petite pause musicale.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venue. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu
C'était Michel Polnareff, évidemment, cette magnifique chanson « Tous les bateaux, tous les oiseaux ».
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours sur France Inter, sous le soleil de Platon, avec la navigatrice Clarisse Kremer, qui est, je le rappelle, la femme la plus rapide du monde sur l'eau, puisqu'elle a battu, à l'occasion du dernier Vendée Globe, le record de Hélène MacArthur, qu'elle détenait depuis plus de 20 ans, je crois, c'est-à-dire le record du Tour du Monde en solitaire sur monocoque, et non pas sur catamaran. Alors, Clarisse Kremer, avant d'écouter Polnareff, on parlait des peurs, et je voudrais qu'on revienne un peu sur ce sujet, la diversité des peurs qu'on rencontre quand on est seul au milieu de l'océan, et puis aussi, j'imagine, parfois la nuit. Mais je précise quand même, pour qu'on se rende bien compte, que c'est à peu près 3 mois que vous avez passé seul en mer, donc près de 90 jours. Avec le recul, finalement, qu'est-ce qui fait le plus peur?
Finalement, les peurs les plus invalidantes que j'ai eues sur l'eau, c'était l'idée que je me faisais de certaines situations météo, c'était dans l'anticipation, c'était des peurs d'anticipation. Et au moment où il fallait entrer dans l'action, sortir dehors, changer une voile par gros temps, ben en fait, on est dans l'action et ces peurs-là disparaissent, enfin, ou se dissipent et nous laissent tranquilles le temps de faire les choses bien. Et ce dont j'ai le plus souffert, c'était je sais pas si c'est des peurs, des angoisses d'anticipation, une espèce de volonté de tout maîtriser, sauf qu'en mer, c'est par définition impossible.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, vous disiez déjà que ce qui vous limitait, c'est une certaine idée que vous faisiez de vos limites. Mm-hmm. Donc c'était aussi une forme d'anticipation, une forme de représentation. Et là, c'est pareil. Vous dites qu'en fait, ce qui fait peur, c'est l'idée qu'on se fait de ce qu'il faudra faire demain. Alors qu'au fond, le présent nous donne des ressources et des forces. Et donc, ça veut dire que parfois, il faut penser un peu moins. C'est paradoxal, parce qu'en même temps, je crois que c'est un type de sport où on doit beaucoup, beaucoup prévoir.
Oui.
Alors comment on gère cette dialectique entre tout ce qu'il faut prévoir et ce talent d'accueillir l'imprévu et d'être présent?
Bah, c'est là où c'est juste génial d'avoir l'opportunité dans sa vie de faire le Vendée Globe, c'est que c'est une leçon de vie, parce que moi, une de mes plus grandes qualités en mer, c'est de savoir anticiper. Je visualise toutes mes manœuvres, j'y pense toute la journée, et du coup, en général, je loupe assez peu de choses. Par contre, c'est aussi un de mes plus gros défauts, parce que c'est ce qui peut potentiellement pourrir la vie, parce que on s'angoisse avant même que la chose soit arrivée, donc on souffre deux fois, et plus on vit de journées comme ça, plus on s'habitue et meilleur on devient au fait de mettre de côté ce qui peut arriver. Et la course au large, c'est ça. On a une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Tout problème mécanique peut arriver à tout instant. Et pourtant, on nous demande d'aller dormir dans son bateau qui va à 20 nœuds, à 25 nœuds et de dormir, presque comme un bébé, parce qu'il faut pouvoir se reposer. À l'échelle de 3 mois, on peut pas ne pas dormir. Même si on dort pas beaucoup et pas très bien, il faut quand même dormir. Et on apprend à vivre avec tout ce qui peut arriver. Et ça, c'est juste trop fort de réussir, enfin, d'y arriver de mieux en mieux et de s'habituer à cette présence du risque, à cette peur des problèmes mécaniques, à cette peur de la météo.
C'est assez fascinant de vous écouter, parce que vous êtes assez jeune, vous avez 32 ans, je crois. Vous avez l'air assez posé, assez souriante, et vous racontez comme ça tranquillement que vous êtes très forte pour la préparation, mais qu'il y a beaucoup d'imprévus. Mais il n'y a pas un moment quand même où, dans le présent, quelque chose vous met en panique extrême?
J'ai eu une phase, par exemple, sur le Vendée Globe où j'étais pas fière de moi a posteriori. J'ai vraiment paniqué. J'ai eu de l'eau dans mon bateau pour une raison mécanique arrêter. Enfin voilà, j'ai pu arrêter l'entrée d'eau dans mon bateau, mais il y avait une grosse quantité d'eau dans mon bateau et la vue de cette eau, c'est quelque chose que j'avais encore jamais connu. Moi, j'avais eu d'autres avaries sur un bateau, mais de l'eau dans son bateau, le bruit des vagues dans son bateau, une grosse quantité, c'est quelque chose qui est assez paniquant.
Comment vous avez d'abord concrètement qu'on imagine, c'était quoi et comment vous l'avez réglé?
On remplit nous des grosses réserves d'eau sur les côtés de notre bateau pour donc ce qu'on appelle des ballasts, pour c'est un terme technique pour équilibrer les poids. Et au lieu de remplir un ballast, j'ai rempli mon bateau. En fait,
il n'y avait pas de trou.
Voilà, donc c'était pas grave. Simplement, de l'eau dans un bateau avec tout l'électronique qu'on a à bord peut poser beaucoup de soucis. En l'occurrence, c'était dans une zone où j'avais toutes mes batteries du bord. Et donc, j'ai eu très peur de perdre, en premier lieu, le pilote automatique, qui est quelque chose de très important sur nos bateaux. Et en second lieu, les moyens de communication, les moyens de routage, parce qu'on a besoin de nos logiciels de cartographie. Enfin, j'avais peur de me retrouver au milieu de l'Atlantique avec plus de son, plus d'images et plus de pilote automatique surtout. Et pendant quelques secondes, j'ai eu une espèce de... dans l'instant présent, j'ai été... J'ai pas bien réagi. Enfin, ça a peut-être duré 2 minutes, mais je courais à droite, à gauche, sans vraiment faire ce qu'il fallait faire tout de suite et sans me poser et avoir le premier réflexe qu'il fallait. Bon, c'est des termes techniques, je vais pas vous expliquer les tenants, les aboutissants, mais j'ai mal réagi dans la. Voilà, j'avais l'impression que mon bateau coulait et ça m'a fait paniquer.
Bon, vous avez eu, si je résume, en 90 jours de course en solitaire, 2 minutes de panique, c'est ça. Donc c'est pas mal.
2 minutes vraiment très paniquées, oui.
Alors ce qui est particulier dans votre parcours et qui vous aussi distingue un peu des autres, c'est que vous avez eu donc une enfance dans l'Ouest parisien, un monde un peu privilégié entre guillemets socialement, et notamment une scolarité. Donc avant d'avoir votre bac avec mention très bien, vous avez été longtemps à Danielou, donc une école privée pour filles où il y a que des jeunes filles, pas de garçons, et qui a la réputation de bien bien préparer les filles à la vie, avec une grande exigence scolaire, une exigence de camaraderie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que, à Daniel Lou, vous avez appris à affronter, je sais pas, par exemple, la mer, la peur? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette enfance, on va dire un peu dorée, et sur le rapport à l'adversité qui suit?
Ouais, bah, c'est vrai que j'ai eu une enfance très privilégiée. J'ai jamais eu, à me soucier de presque quoi que ce soit. Alors je suis pas sûre que Daniel Lou en particulier m'ait appris à affronter les océans et à gérer l'adversité parce qu'on a des problématiques qui sont quand même assez simples dans ce genre d'établissement. Mais par contre, certaines valeurs de franchise, de tolérance qui était quand même, je pense, bénéfique pour moi par la suite. Et effectivement, de camaraderie, l'idée toute simple, hein, quand on met que des filles ensemble, c'est d'enlever toute une partie des conversations qu'on peut avoir quand on mélange les filles et les garçons, pour le meilleur et pour le pire, parce que je suis pas forcément convaincue de ce modèle-là. Mais en l'occurrence, j'ai de très bons souvenirs de cette période-là et j'ai rien contre les établissements féminins.
Des années de franche camaraderie pour apprendre à naviguer en solitaire.
Exactement. Alors, non, mais ce que j'aime bien, par contre, et je tiens à le dire, c'est que souvent les gens ont un certain a priori par rapport à ce genre d'école, et que c'est pas forcément, quand je leur dis que j'étais dans une école que de filles, ils sont là, ah bon, enfin, ils sont souvent assez surpris. Et rien que pour ça, je trouve ça chouette, parce que ça casse un a priori, ça casse une forme d'image qu'on peut se faire.
Et puis c'est très intéressant, tout dans votre parcours et votre propos, on rejoint toujours ce thème de finalement, on se fait des idées sur les choses, et puis en fait, les choses ne correspondent pas aux idées qu'on se fait. Moi, j'ai moi-même enseigné plus de 20 ans dans un lycée de filles, la Légion d'honneur.
Ah oui.
Et donc, c'est pour ça aussi que la question m'intéressait. Mais une autre question qui me trouble, c'est comment on se sent quand on retourne à la Terre après 3 mois, non seulement de solitude, mais surtout de solitude en mer. Comment on se réhabitue, comment on se réacclimate?
Je pense que j'en parle beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où je me sentais perdue, mais je savais pas exactement pourquoi. Alors bien évidemment, il y a la journée où on passe de tout seul à le chenal des Sables d'Olonne avec du monde, les médias et tout ça. Mais il y a aussi l'après où en fait, on a beau raconter l'aventure du Vendée Globe, tout ce qu'on a vécu, on a du mal à mettre des mots sur ce qui a changé au fond de nous. Et l'impact quand même assez fort de 3 mois tout seul sur un bateau. Et moi, ça a mis du temps avant de me rendre compte que... Au tout début, je disais non, mais ça m'a pas changé. Oui, j'ai vécu quelque chose de fort, mais ça m'a pas changé. Et je me rends compte aujourd'hui, voilà, ça fait, je sais plus, 4 mois, 5 mois que je suis revenue. Et je me rends compte que j'ai pas du tout aimé, en fait, la période juste après le Vendée Globe, et qu'il y avait une partie de moi qui avait envie de retourner toute seule en mer. Mais je me sentais extrêmement égoïste de verbaliser ça, parce que j'étais quand même contente de revoir mes proches, de revoir mon mari, de revoir mon équipe. Et on devient un peu accro en fait au fait d'être tout seul sur l'eau et c'est pas quelque chose de forcément gratifiant ou de chic à dire quoi.
Non mais c'est très honnête d'en parler et c'est très beau comme sujet. On imagine aussi que si on se met à la place des autres, les proches, quelque part c'est un peu bizarre de se dire au fond elle a été bien pendant 3 mois toute seule. Finalement à quoi on imagine quelqu'un de très proche de vous qui pourrait se demander Dans l'amour, il y a quand même de la possessivité, nécessairement, du lien, de l'attachement. Et en passant 3 mois comme ça, seul en mer, vous prouvez que finalement, vous n'avez pas tant que ça besoin de l'autre.
Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de solitaire quand je suis à terre. Mais je trouve quelque chose en mer que j'ai du mal à trouver à terre. Et c'est vrai qu'il y a une certaine incompréhension parfois des proches, surtout quand on évoque potentiellement l'idée d'y retourner, de retourner faire ce genre d'aventure. Les gens sont là, mais pourquoi? Et moi-même, avant de faire le Vendée Globe, j'avais du mal à concevoir l'idée de vouloir y retourner. Je comprenais pas forcément les marins qui empilaient sur plusieurs Vendée Globes.
Vous avez envie de remplir?
Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Donc voilà, j'ai pas encore les mots justes pour parler de l'après Vendée Globe, mais c'est vrai que c'est une période qui est particulière et on met du temps avant de se réhabituer à la vie terrienne, la vie entourée et en fait on est un peu nostalgique de ce qu'on vient de vivre.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que peut-être pour éprouver une intensité plus grande, presque de joie en fait, vous avez besoin de fréquenter l'adversité?
Peut-être, et ou en tout cas, c'est dans l'adversité que j'ai l'impression de me bouger suffisamment les fesses pour grandir et pour apprendre cette forme de tension et de stress. Et j'ai l'impression que c'est là que je donne le meilleur de moi-même et que j'apprends véritablement et que j'évolue et que bah voilà, je deviens quelqu'un de plus mûr et j'ai pas l'impression de réussir à le faire aussi bien à terre.
Vous êtes plus apaisé en mer que sur terre?
Non. Non, je suis assez stressée en mer. Bon, surtout sur ce premier Vendée Globe où je voulais absolument terminer et je m'en rendais malade. Mais on connaît des moments de joie qui sont extrêmement intenses et malgré le stress, en fait, même dans les moments où j'ai partagé par exemple un moment après le Cap Horn où j'étais voilà pas bien dans ma peau et j'étais très fatiguée, j'avais du mal à être vraiment combattante et malgré ça, j'avais beau être dans cet état-là, je voulais être nulle part ailleurs. J'étais bien là où j'étais.
Dans ce moment presque où affleure le découragement. Alors qu'on pourrait se dire voilà, passer le Cap Horn c'est une étape essentielle, mais en fait non, vous comprenez à cette occasion qu'il en reste en fait beaucoup de chemin à parcourir. Vous pensez que ce qui vous permet de passer ce moment de découragement, c'est plutôt de l'accepter, de consentir à ce moment de down, ou au contraire de passer à autre chose et d'être un peu dans le déni?
C'est forcément l'acceptation, ça passe forcément par là, et en tout cas pour moi, et ça passe par le fait de... Parce que accepter, c'est quelque chose que je fais assez bien. Par contre, maintenant j'ai accepté, maintenant je passe à autre chose. Mais en fait, se rendre compte qu'il faut forcément un petit délai qu'on ne maîtrise pas. Et quand on est en course et qu'on a envie d'aller vite et de passer vite à autre chose, de pas maîtriser ce délai, c'est quelque chose d'assez frustrant. Et en fait, tant qu'on reste dans cette frustration, on se bloque, c'est une espèce de cercle vicieux, on passera pas à autre chose. Et donc la vraie acceptation, c'est non seulement d'accepter cet état-là et d'accepter qu'on ne maîtrise pas le délai.
Bah oui.
Être nécessaire pour revenir à l'état normal.
C'est ça. Il faut accepter non seulement qu'on a du découragement, mais qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça?
Exactement.
Et alors, vous apprenez donc en pleine course le naufrage de Kevin Escoffier. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ça pendant que vous êtes vous-même en train d'avancer?
On l'a dit plus tôt, moi j'ai pas une... c'était une de mes premières grandes aventures au large et j'avais pas une grande expérience. J'ai connu assez peu de vrais avaries de mer, de vrais faits de course comme celui-là qui peuvent être dramatiques. Donc c'était une grande première pour moi et c'est pas du tout agréable d'imaginer. En fait, on devient, même si on connaît pas forcément tous ses concurrents très bien, on devient par la force des choses assez proche d'eux, on se sent lié, même sans parler, même sans échanger. Et donc j'étais vraiment... voilà, c'était pas possible de penser à autre chose à ce moment-là. Tout mon esprit était concentré sur Kevin et sur est-ce que on va réussir à le retrouver. En plus, il y a eu un peu des péripéties. On a vu que Jean Le Cam l'avait perdu de vue après l'avoir vu. Et ça, quand j'ai entendu ça, on connaît plein d'histoires où en fait on perd de vue les radeaux de survie et on les retrouve jamais. Et donc j'ai eu extrêmement peur. Et donc ça a été un énorme soulagement quand on a su qu'il était récupéré. Et de le vivre en course, on se sentait vraiment. J'avais l'impression d'être à sa place en fait. Et ça, c'était assez fort. Oui.
Ouais, on imagine que c'est qu'on se sent vraiment ensemble finalement, alors qu'on est chacun seul sur son bateau.
Ouais, c'est marrant parce qu'on est quand même concurrent, on est adversaire et en même temps on sait que seuls ces concurrents, enfin, il y a que nos concurrents qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de vivre quand on est sur l'eau et donc même sans échanger avec eux, on est un peu en phase et on se comprend.
Merci beaucoup Clarisse Kremer, je vous propose une deuxième pause musicale.
Will it come for you? Noah built the ark before the skies. On the waters rise, on the plank where the last light dies. On the Orient Road, to the poles we go. On the Orient Road, climb aboard for the gale will blow.
Side to side.
C'était Pierce Faccini avec Ben Harper sur la chanson All Aboard.
Sous le soleil de Platon.
Même beau la mer.
C'est vrai que c'est beau. En même temps, toujours pareil. C'est l'eau qui bouge.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours sous le soleil de Platon avec Clarisse Kremer, la navigatrice, qui est descendue de son bateau pour nous rejoindre bien sur Terre et qui nous parlait, dans des termes très jolis, je trouve, de cette espèce de solitude recherchée comme ça en pleine mer, dans une course où, je le rappelle, vous avez été près de 3 mois toute seule en mer, avant de finir 12e et puis aussi première femme, et d'ailleurs première femme au fond de tous les temps à faire ce temps-là. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui est impossible à partager au retour, même avec vos proches, c'est ce que c'est, en fait, que cette solitude, comment elle articule des joies et des douleurs. Est-ce que c'est pas ça, en fait, qui est incommunicable?
Oui, parce que c'est extrêmement complexe. On partage aujourd'hui, avec tous les moyens modernes qu'on a à bord, on partage des vidéos, des textes, des enregistrements, mais c'est pas 2 minutes de vidéo envoyées tous les 2 jours qui peuvent être représentatives de ce qu'on a vécu. Et quand on arrive à terre, il y a non seulement l'impossibilité de trouver les mots justes, en tout cas, là, tout de suite, après avoir mis le pied à terre. Et en plus, presque un combat avec l'image que les gens se font de ce qu'on a vécu sur la base des vidéos qu'ils ont regardées. Ça a été un peu frustrant à mon arrivée parce que j'étais, je pense, un peu trop fatiguée avec assez peu de recul pour réussir à bien expliquer.
Vous voulez dire qu'il y avait presque un sentiment, au fond, vous sentiez presque agressé, quoi?
Agressé, non, mais en fait, à chaque conversation, chacun a une idée de ce que moi j'ai vécu, et en fait, il y a une espèce de c'est l'eau hein, qui s'invite sur le plateau.
Je viens de renverser mon verre d'eau, c'est marrant parce que c'est Jean-Paul Rouve qui disait dans l'extrait de tout à l'heure des Tuches, la mer ce n'est que de l'eau qui bouge, c'est ça.
J'aime bien si en philosophie au bac de philo on avait le droit de citer les Tuches, ça serait.
Mais on peut tout citer. Ce qui compte, c'est comment qu'est-ce qu'on
comment
en fait.
Comment l'utiliser. Voilà. Et donc je sais plus où je voulais en venir.
Si vous étiez ce sentiment d'incompréhension.
Oui, en fait c'est juste qu'on vit des choses tellement complexes et soi-même on a déjà tellement de mal à expliquer ce qu'on a vécu que d'avoir des personnes extérieures qui ont une idée sur ce qu'on a vécu et tenter de nous l'expliquer ou nous l'imposer de telle ou telle façon, c'est presque frustrant. Et en même temps, ça fait partie du jeu de la communication et le fait de partager en mer des images nous rend sujet à ce genre de d'imaginaire. Ouais.
Est-ce que vous avez suivi ce qu'avait fait le navigateur Éric Bellion dans une précédente course? Vous savez, il avait fait la course lentement avec un bateau lent en voulant militer un petit peu pour le retour de la lenteur.
Oui, j'ai suivi puis j'ai vu aussi son film.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette démarche?
Oui, alors il est lent, oui et non. Enfin, il était quand même, il a fini par accélérer et appuyer un peu sur le champignon sur la deuxième partie de course. Mais Éric Bellion a aussi voulu montrer son cheminement en fait, qui était, enfin, il a partagé ses doutes. Lui aussi, il manquait un peu de confiance en lui au départ du Vendée Globe, et il a vraiment voulu partager autre chose que simplement l'aspect compétition qu'on a pu connaître parfois sur certaines éditions du Vendée Globe, où c'était vraiment ça qui prenait le dessus, quitte à ne pas partager les doutes, les angoisses, les peurs. Et parfois, ça fait presque un peu de mal au Vendée Globe, parce que laisser imaginer que pendant 3 mois en mer, on peut être moral stable tout le temps et simplement à fond sur son bateau à gérer la partie compète, c'est presque dommage, en fait.
Vous
parce qu'il y a tellement plus que ça.
Certains compétiteurs sont dans un excès de confiance, une sorte de surconfiance ?
Pas forcément dans une surconfiance, mais en tout cas dans la maîtrise de ce qu'ils vont partager. Et puis après, c'est aussi quelque chose qu'on fait naturellement ou pas dans la vie terrestre, hein, terrienne. C'est ils n'ont pas envie de partager leurs doutes, leurs angoisses, leurs peurs. C'est pas quelque chose qu'ils font naturellement. Et du coup, ils le font pas non plus à propos de ce qu'ils vivent en mer, alors que ça fait forcément partie intégrante d'une aventure au large de 3 mois en solitaire. C'est pas possible autrement.
Et c'est d'ailleurs peut-être aussi très intéressant, justement. Vous, ce que vous avez préféré pendant, avec le recul sur ces 3 mois, c'est, vous diriez, c'est ce que vous avez quand même finalement maîtrisé ou ce que vous n'avez pas maîtrisé?
C'est ce que j'ai pas maîtrisé dans un premier temps, que j'ai fini par maîtriser petit à petit. Et c'est le regard que j'arrive à avoir aujourd'hui sur les faiblesses que j'ai eues en mer. Et en fait, le champ des possibles, moi, ce que j'aime beaucoup dans la course au large, c'est l'apprentissage. Et d'avoir réussi à mettre le doigt sur les choses qui m'ont fait défaut, je trouve que c'est une chance extraordinaire, parce que maintenant, j'ai plus qu'à aller travailler. Et ça me fait plaisir. Après, ce que je retiens au fond de moi, c'est aussi des moments beaucoup plus simples, de joie, pour des choses très basiques.
Par exemple?
J'ai beaucoup partagé mon amour des pamplemousses en mer. Ouais. et ce plaisir de manger un fruit frais quand on mange que des choses un peu plus sèches depuis quelques semaines, je le garde en moi, et dès que je vois un pamplemousse, ça me fait un petit clin d'œil. Voilà. C'est des petites choses comme ça dont on s'enrichit et qui sont agréables.
Vous pensez que dans la vie, comme sur une grande course en mer, on réussit davantage en cultivant ses forces ou en corrigeant ses faiblesses?
C'est les deux. C'est un sport de compromis, donc il faut savoir jouer sur tous les tableaux et pas oublier ses forces. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler parfois, de réussir à mettre sur le papier mes forces, ce que je fais de bien. Et on peut pas être un bon critique si on voit que la partie négative.
Ouais, et donc vos forces, quelles sont-elles?
J'essaye de les... je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait de savoir anticiper, bien visualiser sur un bateau, c'est quelque chose qui est important et qui m'a beaucoup aidé à faire des belles trajectoires. Et puis d'avoir l'impression, quand je suis en mer, de jouer sur un plateau de jeu géant avec les systèmes météo à l'échelle, presque à l'échelle mondiale. Moi, c'est quelque chose qui me transcende presque, enfin, que je trouve juste génial. Et donc, ça devient une de mes forces parce que ça me passionne et que j'ai aucun mal à passer beaucoup de temps quand je suis sur l'eau à réfléchir à la météo.
Vous voulez dire, vous essayez de vraiment jouer avec les forces en présence que la météo indique, c'est ça?
Eh ben oui, parce que nous, on joue avec des anticyclones, des dépressions, et on regarde comment ils avancent. Il y a la théorie, puis il y a la pratique, et on peut télécharger énormément de fichiers météo. On peut aller prendre des sources de renseignements sur plein d'endroits différents et on va faire des empannages, des virements de bord en fonction de toutes ces forces, alors qu'on est au milieu du Pacifique. Et donc ça donne l'impression d'être sur un plateau de jeu géant. Oui.
Il y a souvent les philosophes et les sages définissent la joie ou le bonheur en employant l'expression de sentiment océanique. Est-ce que ça vous parle?
Peut-être dans le côté plus fort que nous et un peu sublime et assez sauvage et nature, oui. Après, si on parle philo, moi j'ai une phrase à laquelle j'ai beaucoup pensé parce que j'ai essayé de lire ce livre, je l'ai pas réussi à lire en entier mais en diagonale, un livre de Bergson où il dit que toute grande joie indique que la destination est atteinte. Et ça, c'est pour moi, c'est voilà. Du coup, dès que je vis un moment de joie, pour moi, je me dis banco.
La destination, c'est Sable d'Olonne.
Ouais. Non, c'est justement pas ça, c'est le chemin avec les joies tout au long du chemin.
Bah, vous avez bien raison. En fait, ce que veut dire Bergson, c'est que c'est la destination de la vie qui est atteinte. Et cette destination de la vie, il dit toute grande joie à un accent triomphal. Oui. Elle dit que la vie a remporté une victoire. Oui. Alors une victoire sur quoi ? Eh bien justement, c'est un peu ce dont vous avez parlé. Une victoire sur la répétition, une victoire sur la simple habitude. Et c'est toujours un peu une victoire de la créativité. Et ça peut être une créativité qu'on rencontre dans des choses très concrètes. Hein. C'est pas nécessairement être Picasso, voilà. C'est le fait de... C'est exactement ce que vous avez raconté, c'est je m'entraîne pour pouvoir improviser au fond. Et je répète pour pouvoir... précisément sortir de la répétition. Et la joie, c'est ce moment où on est traversé par cette espèce d'énergie créative de la vie. C'est une belle phrase, vous pourriez peut-être la graver sur la coque.
Ouais, bah, c'est ma phrase du moment, après peut-être que j'en aurai une autre dans quelques temps.
Ah, c'est vraiment une phrase assez puissante, je trouve. Alors, vous avez un parcours avec beaucoup de réussite, hein. D'abord scolaire, et puis après en mer. Est-ce qu'il y a dans votre chemin, néanmoins, un échec qui aurait été particulièrement vertueux?
Bah, c'est un peu ce dont j'ai parlé au début. Finalement, abandonner la start-up que j'avais créée avec mon frère, qui n'était pas prévu, qui s'est pas passé dans des... voilà, c'est du jour au lendemain. Vraiment, j'ai dû claquer la porte parce que je pouvais plus physiquement. Et pour moi, ça a été un échec parce que j'ai pas tenu mes engagements, les engagements que j'avais pris. J'ai fait défaut à mon frère. Et quand on crée une entreprise avec des liens familiaux, c'est pas quelque chose d'amusant parce qu'on peut pas juste mettre la personne de côté. Voilà, après c'est vrai que c'est un échec mesuré parce que c'était rien de grave au fond, mais je l'ai vécu comme tel. Mais c'est sûr que je le reconnais, j'ai eu pas mal de chance et de réussite dans mon parcours et peut-être que vivre un échec plus cinglant une autre fois, ça sera peut-être ça mon prochain défi.
Ne vous inquiétez pas, la vie nous réserve bien des surprises. Mais alors c'est intéressant, ça nous permet de revenir à ce qu'on disait au début sur la décision de changer de vie, qu'on n'avait pas bien entendu au début de l'émission. C'est qu'en fait, dans cette décision, il n'y avait pas simplement l'attirance pour votre vrai désir, votre horizon comme ça de faire du bateau, mais il y avait aussi un mal-être en fait. Vous n'étiez pas bien dans cette vie-là.
Ouais, alors je me rendais pas compte que j'étais pas bien, mais jusqu'au jour où en fait le fait de venir m'installer en Bretagne, de me lancer dans des projets bateaux, c'était quelque chose qui me faisait rêver, mais que je n'arrivais absolument pas à mettre concrètement dans cette espèce de plan quinquennal que j'avais de ma vie. Ouais. Et finalement cette rupture là où j'ai dit en fait c'est vraiment physiquement, j'y ai eu un matin où j'étais plus capable de travailler. Aujourd'hui on appellerait peut-être ça un burn-out. Ouais. Après il y a pas quelqu'un qui a mis le nom dessus, mais vraiment du jour au lendemain, il y a eu une espèce de rupture que j'ai absolument pas maîtrisée, que je n'ai absolument pas vu venir, et finalement quelque chose qui était assez qui n'a pas été drôle pour moi, même s'il n'y avait rien de grave au fond. Aujourd'hui, ça a été un moment qui m'a permis de rebondir, et depuis, je ne fais plus jamais de plan quinquennal de ma vie, et finalement, c'est ça qui c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai eue de ce problème-là.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase d'Héraclite à propos de plan quinquennal, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Très honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai pas. En fait, j'essaye d'avoir le moins possible de certitude sur la vie et un peu d'avancer au fil de l'eau, justement en ayant des grands fils conducteurs qui sont trouver des moments de joie, me sentir à ma place, essayer d'être, faire des choses qui sont assez intuitives et plutôt de l'ordre de l'irrationnel et de pas forcément réfléchi. Donc je peux peut-être me baigner deux fois dans le même fleuve, ça dépend si je m'y sens bien ou pas.
Peut-être si c'est une manière de... Enfin, si c'est une répétition, au fond, qui autorise une improvisation.
Oui, 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 c'est sûr que... Aujourd'hui, j'ai peut-être le défaut inverse d'avant, c'est que si c'est trop prévu, trop organisé, ça me crée un petit peu des angoisses, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Et je suis d'ailleurs très très nulle en logistique.
Il y a des moments où carrément, au-delà du simple accueil de l'imprévu, vous avez eu le sentiment, comme ça, en pleine course, de vraiment improviser.
En fait, bah oui, c'est tout le temps. En fait, on peut un truc qui arrive assez souvent sur nos bateaux. Donc, on a des pilotes automatiques sur ces grands bateaux de 18 mètres qui nous permettent de tenir la barre à notre place parce que c'est physiquement pas possible de passer 3 mois à la barre. De temps en temps, ils décident de bugger et donc hop, ils nous font faire un tour sur nous-mêmes alors qu'il y a 25 nœuds, qu'on a des très grosses voiles établies, que c'est un peu chaud. Et donc, on se retrouve avec le bateau arrêté, avec on a une quille qui bascule, qui est à l'envers, les voiles à l'envers, il y a plus rien qui va, tout qui tombe dans le bateau. C'est le bazar total et nous on était potentiellement en train de faire une sieste ou de se changer ou de et donc là bah c'est l'impro quoi il ouais. faut on est dans une situation délicate c'était absolument pas prévu et c'est de l'impro vraiment de base quoi c'est alors là j'ai tout qui est tout en vrille qu'est-ce que je fais et on a à peine le temps de réfléchir et ce côté un peu instinctif de ok je fais ci je fais ça c'est les réflexes du marin qui viennent jouer en fait et qui viennent
c'est là que l'intuition c'est de l'intuition
ouais il y a de l'intuition il y a du réflexe lié à l'expérience ouais. à des situations qu'on peut avoir déjà vécues des situations similaires et c'est un mélange de et puis beaucoup d'énergie on finit un peu transpirant en général ça arrive quand on vient de se changer qu'on a mis des vêtements secs pour la première fois depuis une semaine et que du coup on va bien transpirer dedans
et est-ce que vous avez confiance à un moment en le bateau lui-même?
Il faut parce que finalement c'est notre coque de noix qui quand on est au milieu du Pacifique et qu'on sait que de potentiels secours sont très loin, on peut pas on fait forcément confiance à son bateau, on remet notre vie
Vous lui avez parlé un petit peu ?
Ouais, on lui parle parce qu'on est tout seul sur l'eau et que il faut bien parler à quelqu'un et que moi je suis bavarde comme vous pouvez le constater, mais on lui parle et puis on a vraiment la sensation, en tout cas moi j'avais eu que 1 an et demi pour me préparer à cette course, j'ai vraiment eu la sensation d'apprivoiser une bête, une machine tout au long de ces 3 mois et d'ailleurs à l'arrivée on a enfin l'impression de, enfin moi c'est ce que j'ai dit, j'ai eu enfin l'impression d'être à la hauteur de la machine extraordinaire qu'on m'avait mis entre les mains.
Eh bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage et puis aussi cette sagesse, Clarisse Kremer. Merci d'être venue sous le soleil de Platon. Et en guise de remerciement, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre et que nous avons entendue ce matin. C'est très troublant. J'ai eu l'impression vraiment d'un chemin de sagesse de quelqu'un qui commence par penser que quand on veut, on peut et qui finit par découvrir qu'il n'y a pas que la volonté, mais aussi peut-être le désir, mais aussi peut-être l'accueil, l'imprévu, l'intuition. On voit aussi une dialectique très intéressante dans votre propos entre tout ce qui est rigueur, sérieux et puis ce qui est contemplatif. Et on devine qu'il y a dans ces moments où vous vous ressourcez dans la nature, dans la solitude, quelque chose qui donne vraiment de la force. Au final, une philosophie de la confiance, je dirais, mais une confiance multiple, pas simplement en vous-même, hein, votre expérience, une confiance aussi en l'amour, j'ai l'impression, avec votre mari, qui vous a quand même accompagné dans ce projet, une confiance en le bateau, et j'aurais envie de dire aussi une confiance en la vie. Clarisse Kremer, merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, et puis bonne chance pour la prochaine course.
Oui.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Mathias Aléon, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours, tous les matins, à 10h, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.